Rafa Hitchcock. Quand on sonne du chauffeur, à ce moment-là, on dit toutes sortes de textes et on dit une phrase Ashrei Ha'am Yod Ei Trua. Hashem Beor Panecha Yalechun. Heureux l'homme qui sait, heureux pardon le peuple, qui sait, qui connaissent la Trua. Hashem, ils marcheront à ta lumière, à la lumière de ton visage. Alors, c'est assez étonnant ce verset, parce que nous disons régulièrement dans la Tfila, nous disons qui beor panecha natat alanu, à la lumière de ton visage, tu nous as donné Torah ou Torah Chayim, Avat Chesed, etc. Donc, toutes les mitzvot, toute la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a mention ici spécifiquement de Or Panecha pour la mitzvah, de la lumière de ton visage, pour la mitzvah de Tkiat Shofar, ou plus précisément pour la partie de Tkiat Shofar qui s'appelle Teroua, qui est ce qui donne son nom à Rosh Hashanah, je vous rappelle. A priori, la lumière divine, elle accompagne toutes les mitzvot. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire ici en particulier? Et pourquoi est-ce que c'est lié au peuple? Et surtout, la mitzvah de Shofar, c'est d'écouter. Et ici, on parle d'une notion de yedi'a, de connaissance. C'est quoi la connaissance de la Trua? La mitzvah, c'est pas de connaître la Torah, la Trua. Il faudrait savoir ce que ça veut dire, connaître la Trua. A priori, la mitzvah, c'est d'écouter. Les Chachamim ont expliqué la notion de Yediat Trua, la connaissance de la Trua, de la manière suivante. Ashrei Ha'am Yodei Trua. Chazal l'ont traduit par heureux le peuple, chez Yodim, les gens, les hommes de ce peuple. Yodim lefatot et boram betrua. Ils savent séduire leur créateur avec la Trua. De là, on apprend, dit Rav Yitzhak Kuttner, que la yédia de la Trua, c'est quelque chose de particulier qui est un élément de la mitzvah du shofar. Parce que c'est un élément tout à fait extraordinaire dans le shofar. Parce qu'on n'a jamais entendu qu'une mitzvah servait à la séduction. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pitouille. Le fatot, c'est séduire. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de séduire Hachem? Mais c'est quoi cette histoire de séduction attachée à la Teroua? Nehemia, à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, au premier Rosh Hashanah de la deuxième Aliya du clan Israël dans l'Eretz Israël, quand les Bnei Israël ont eu le Roshut, la permission de retourner en Eretz Israël, à la fin du Galout Babel, le premier Rosh Hashanah, Nehemia s'est adressé au peuple et il leur a dit « Alti tavlu ve alti fku. Ne portez pas le deuil, ne pleurez pas. Valti atzvu, ne soyez pas tristes. Ki chedvat Hashem hi ma'uzchem. » La joie d'Hashem ou en Hashem, c'est votre force. Le Rabbi Yitzhak Kuttner dit, si on écoute bien ce qui est dit là, c'est pas que Nehemia leur dit quelque chose qui justifierait qu'ils arrêtent de pleurer. Quand ils sont revenus, ils ont vu la situation les faisait pleurer. C'est une situation affreuse. Même quand on a construit le deuxième Beth Amikdash, ceux qui avaient vu le premier ou qui avaient les connaissances du premier, ils pleuraient parce que c'était pas du tout à la hauteur du premier. Normalement, quand on parle à quelqu'un qui pleure et qu'on lui dit de pas pleurer, on doit lui donner des raisons de ne pas pleurer. Ici, il y a quelque chose qui, au lieu d'être des raisons de ne pas pleurer, c'est, il leur dit quelque chose qui va contre le pleur, qui s'oppose à la dimension du pleur, qui élimine la raison pour laquelle on pleure, qui la contredit complètement, la repousse, et qui, en fait, va nous amener au contraire à se réjouir. Il y a dans la halakha, il y a toute une discussion entre les poskim, dans les décisionnaires, pour savoir est-ce qu'il y a un issour ou pas de jeûner à Rosh Hashanah. Donc, là-bas, même la Shita qui dit que c'est interdit de jeûner à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah est appelé Chag, c'est une fête. C'est comme dans le Passouk, c'est marqué « Bakese le Yom Chageinu », Passouk qui parle de Rosh Hashanah. La lune est cachée le jour de notre fête. Donc Rosh Hashanah s'appelle Chag. Néanmoins, c'est une fête qui est différente des autres, parce que les autres fêtes, c'est clair et net qu'on n'a pas le droit de jeûner. On n'a pas le droit de jeûner jusqu'à Chatzot, Yom Tov. À Rosh Hashanah, c'est pas très important. Enfin, certains pensent que c'est pas très important. Ce qui est encore plus étonnant, plus frappant, c'est la halakha du Tanit Chalom. Vous savez, ce Tanit, ce jeûne qu'on fait quand on a fait un mauvais rêve. Qu'est-ce qui se passe si ça arrive à Rosh Hashanah? Dans les autres fêtes, si ça arrive, alors on va jeûner parce qu'on est tellement mal sous l'effet de ce rêve qu'on a besoin de faire quelque chose, on va jeûner. Et ensuite, il va falloir jeûner pour compenser la faute d'avoir jeûné. C'est un peu paradoxal. À Rosh Hashanah, c'est pas nécessaire. On voit très clairement que l'idée de ne pas pleurer dans le verset de Néhémiah, c'est quelque chose de singulier, c'est quelque chose qui a vraiment à voir avec Rosh Hashanah. Parce que l'interdit de pleurer les autres jours, ça vient parce que on veut interdire totalement le pleur. Parce que ça détruit d'une certaine manière le travail, la avoda, et la mitzvah de la fête. C'est contradictoire. Alors ici on voit que dans ce verset de Néhémiah, c'est autre chose, c'est afalpi. Bien que à Rosh Hashanah, on puisse intégrer le pleur dans le service de Rosh Hashanah, néanmoins ne pleurez pas et ne vous attristez pas. C'est-à-dire que Néhémiah leur dit, je ne peux pas vous dire que ce que vous faites est contraire à Rosh Hashanah. Ce qu'on aurait pu vous dire si vous pleuriez à Shavuot ou à Pessah. Ce n'est pas contraire. On peut intégrer cela dans le service de Rosh Hashanah. Mais néanmoins, ne pleurez pas. Je vous demande de ne pas pleurer. De ne pas vous attrister. Qu'est-ce qui se joue là? Dans le Rambam, dans Hilchot Tshuva, le cinquième Perek, il dit, c'est le texte très connu, Roshut l'chol adam de Tuna, la permission est donnée à chacun, im rotse le'atot atzmo le derech tova veliot tzadik, s'il veut pencher du côté du bien et il veut devenir tzadik, Roshut biyado, on a le droit. On a le droit d'être tzadik, dit Rambam. Vim ratsa l'atot atzmo le derech ra'a veliot racha, Arshut biyado aussi. Mais on a aussi la permission d'être un rachat. C'est-à-dire, on est totalement libre. Et il dit, Vedavarze, Ikar Gadol Hu, Vu Amud, A Torah ve A Mitzvah. Ceci, c'est un principe fondamental. C'est un pilier de la Torah, dit-il, et des mitzvot. C'est marqué dans le pasuk, Rei, natatil fanecha ayom et achayim. Voilà, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, et choisis le bien. Le Rambam, il s'est appuyé sur le fait que la Bechira, le choix possible, c'est un fondement, un pilier de la Torah et des mitzvot. Il s'appuie sur le fameux pasouk, voilà, j'ai mis devant toi la vie, la mort, etc. Visiblement, Rambam, en faisant cela, il pense que c'est parce que le principe même, la possibilité qui nous est donnée de choisir, appartient au système de la Torah et des mitzvot. C'est pour ça que le verset vient et dit « Chayim, la vie », qui est quelque chose de très général, de très englobant, en fait, la vie. Et on sait que il y a deux midot qui sont à l'œuvre dans la avoda, quand on la avoda d'Hachem. Quand on veut servir Hachem, il y a deux grands principes, deux grandes midot, deux grandes mesures qu'il faut mettre en œuvre. C'est Ahava et Yira, l'amour et la crainte. Et donc c'est clair que il faut que on écoute bien ce que disent les Chachamim ici, quand ils disent que le fondement de la Torah, c'est la possibilité de choisir, et ça il le met avec la mida de Yira, la crainte d'Hachem, puisqu'on dit Akol bide shamayim chutz mirat shamayim, c'est-à-dire c'est clair, c'est tout est décidé par Hachem sauf la Yirat Shamayim. Ça c'est notre travail à nous, de choisir la Yirat Shamayim. Mais c'est clair que il s'agit pas ici de la Yirat Shamayim en tant que mitzvah particulière. Il y a une mitzvah de craindre Hachem, mais c'est pas, on parle pas ici de cette mitzvah particulière. Parce qu'il n'y a pas lieu dans ce domaine-là d'extraire et de singulariser une mitzvah parmi les autres. Et dire que c'est seulement dans cette mitzvah-là qu'il y a le koach de la Bechira. Donc, c'est pas de la mitzvah de Yira qu'on dit à Kol Bidei Shamayim Chutz Miyirat Shamayim. Yirat Shamayim ici, c'est pas la mitzvah. C'est pas toutes les mitzvot, elles sont hors de notre possibilité de choisir, sauf la Yira. C'est pas de ça qu'il s'agit, bien sûr. Le mot ira ici, c'est une mida du nefesh, c'est pas une mitzvah, c'est une mida, une mesure. C'est-à-dire, c'est un fondement de la Avodat Hashem en général. Bon, mais il reste toujours la question. La question, elle reste. De la même manière qu'on peut servir Hashem par la Yira, on peut aussi servir Hashem par Ahava, par amour. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lien particulier avec la capacité de choisir, le libre arbitre, si vous préférez, et la mida de Yira en particulier. J'explique. Quand on dit Akol bide shamayim, chutz miyirat shamayim, il ne s'agit pas de la mitzvah de craindre Hashem. C'est une des 613 mitzvot. Il s'agit ici de la mida générale, de l'approche, si vous voulez, qu'on doit avoir. Mais, c'est-à-dire, on doit servir Hashem, utiliser la Yira comme un cadre général pour servir Hashem. La Yira, elle a des degrés. Il y a la crainte de la faute, la crainte du bâton d'abord, la crainte de la faute elle-même. Il y a la crainte révérentielle tout en haut. Bon, c'est tout, dans tout cet éventail de Yira, de mode de Yira, bon, on peut choisir et servir Hashem donc par Yira. Mais on peut aussi servir Hashem par amour. Sans introduire la notion de crainte. Excusez-moi. Alors pourquoi est-ce que on dit à Kol Bidei Shamayim? On devrait dire aussi Akol Bidei Shamayim, Chutz Mi Ahavat Hashem. Ahavat Shamayim, Ahavat Hashem. Là aussi, on a le choix. Le Rambam vient d'expliquer. On avait le choix. Un des points extraordinaires dans le choix des mots par les termes par les Chachamim, c'est que il y a quelque chose de particulier à lier le Koach HaBechira, la faculté de choisir, à la Mida de Yira, quelque chose qui ne se retrouve pas dans la Hava. Pourquoi? Parce que dans la volonté qui en fait la volonté de faire ce qu'Hachem nous demande, quand on te dit tu vas choisir, tu veux, qui viendrait de la Hava, ou la volonté qui viendrait de la Yira, il y a une grande différence, c'est que quand quelqu'un est entraîné à faire quelque chose par amour, alors il lui suffit d'avoir cette volonté d'amour. Si on lui donne la possibilité, cet amour, de s'exprimer, bon, ça suffit, c'est bon. Alors que quand quelqu'un veut faire les choses et qu'il est dans une crainte permanente, en fait, à cause du danger qu'il y a, la Yirat Shamayim, il y a à craindre, je suis dans la crainte. Donc, il sera pas complètement serein si on lui donne seulement la possibilité d'échapper au danger. Mais il faudra une volonté de passer par-dessus, d'éliminer cette crainte qu'on a du danger. Et donc, Quand le libre arbitre demande, en fait, parle de faire les choses par Yira, on en vient à la Mida de Yira, ça crée d'une certaine manière une contradiction. Entre ce qui est en train de se faire dans le cadre de cette Avodat Hashem, c'est-à-dire que le Ratson, la volonté de la Midat Yira, qui c'est Yira Tret, par exemple, de crainte, la crainte de la faute, ça va dans le sens d'essayer d'éliminer le danger. Il faut éliminer la sakana. Mais en vérité, il y a ici dans toute Yiratret, il y a un désir d'éliminer la réalité de la faute. Mais si j'élimine la réalité de la faute, alors c'est aussi j'élimine en même temps le choix. Si la possibilité de fauter n'existe pas, mais il n'y a plus de Bechira. Il n'y a pas de choix possible. Et donc, au moment où j'annule la possibilité de choisir parce qu'il n'y a qu'un seul côté de l'alternative qui est là, il n'y a plus de service d'Hachem. Il n'y a plus d'avoda. L'avoda, c'est justement vaincre et arriver à faire ce que Hachem demande que nous fassions. Mais il y a quelque chose à vaincre. Et donc, le processus de service d'Hachem dans la Yira Tret, par exemple, c'est un processus qui à la limite, s'auto-détruit. Parce que le désir de devenir un serviteur d'Hachem inclut normalement la volonté de garder la possibilité de choisir. Un serviteur d'Hachem, c'est quelqu'un qui décide de servir Hachem alors qu'il pourrait ne pas le faire. Sinon, c'est un automate, c'est pas un serviteur d'Hachem. Donc, il faut que la faute continue d'exister pour que on serve Hachem. Or, si on est dans la Yiratret, on voudrait que la faute n'existe plus. Bien sûr que, en réalité, si on voulait pinailler, on pourrait dire, écoute bien ce qu'on dit, Chazal, ils ont dit, Yirat Shamaim, ils ont pas dit Yirat Chet. Bon, mais peut-être, Rav Yitzhak Kutner, on va pas entrer là-dedans, c'est pas vraiment notre sujet. Évidemment, si maintenant on est, si on disait à Kol Bidei Shamayim Chutz Mi Ahavat Hashem, bon, si on se place maintenant dans la situation de quelqu'un qui veut servir Hashem par amour, donc il faut que, puisque Chazal n'ont pas choisi ça, ils ont choisi Ira et pas l'amour. Alors, il faut d'abord que nous réfléchissions sur le fait que David HaMelech a demandé à Hachem, Bochenina, Hachem, donc, mets-moi à l'épreuve. Sarfa kiliotai velibi. C'est-à-dire, on va voir exactement ce qu'il en est de mes entrailles, quelque part, de mes reins et de mon cœur. Sonde mes reins et mon cœur. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de ça, David HaMelech a demandé à Hachem que de la même manière que dans la Amidah, on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, David a demandé qu'on dise Eloke David. David, c'est le Mashiach. Donc, on mentionne l'Elohim de Avot, et puis il lui dit, bon, on va aussi mentionner l'Elohim du Mashiach. Et Hachem a dit non. Alors, David a insisté, il a dit, mais pourquoi pas? Alors, Hachem lui a dit, parce que eux, je les ai éprouvés. Alors, David, immédiatement, il a sauté, et il a dit, ben, éprouve-moi, Hachem. Éprouve-moi, comme ça, tu pourras dire Eloke David. Bon, tu pourras nous enseigner à dire Eloke David. Parce que moi aussi, j'aurais été éprouvé. Et comme vous savez, Akadosh Baruch Hu a dit à David HaMelech, il lui a dit, Chayecha, par ta vie, je vais t'éprouver avec quelque chose que les enfants du Talmud Torah, de n'importe quel petit bled, savent, et tu vas te casser la figure. Et il l'a éprouvé avec l'histoire de Bathsheba, il s'est cassé la figure. Alors, bon, en passant, je répète que il s'est pas vraiment cassé la figure parce que c'était à blanc, parce que le mari de Bathsheba devait donner un acte de divorce, et que puisqu'il n'est pas revenu de la guerre, cet acte de divorce avait force de loi, qu'elle était divorcée depuis le moment où il est parti en guerre, comme le faisaient tous les soldats de David. Mais David ne le savait pas. Et d'ailleurs, au moment où il l'a fait, c'était pas encore complètement joué. Et donc David, de ce fait, il a fait tchouva toute sa vie sur cette faute qu'il n'a pas vraiment commise, mais dont on peut penser qu'on peut dire qu'il a fait tout le travail intérieur pour que cette faute soit commise. Et puis bon, c'est Hachem qui l'a sauvé. Puisque Hachem voulait seulement lui montrer qu'elle allait se casser la figure, parce qu'on ne peut pas se permettre de demander à être éprouvé. Si tu demandes à être éprouvé, c'est une faute d'orgueil déjà, et tu vas te casser la figure. Tous les jours, on demande à Hachem de ne pas nous éprouver. D'accord? Bien que nous sachions pertinemment qu'on ne grandit que des épreuves. Mais on ne peut pas demander les épreuves. Rachamim ont compris que donc David a été puni à cause de cette demande. Au point que à la fin, il a dit, après l'opération, il a dit, si seulement je n'avais pas dit cela, si seulement je m'étais tu, j'avais rien demandé. C'est vrai, c'est un peu surprenant parce que on est obligé de dire que il ne regrette pas la demande, éprouve-moi. Puisque finalement, ce problème de l'épreuve, c'est un sujet qui revient chez les Bnei Israël. Ce que nous disons, quand nous lisons Al Tevieni Lidei Nisayon, ne m'amène pas en situation d'épreuve, c'est une des supplications du clan Israël tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on demande de ne pas être éprouvé, et si en même temps, en vérité, on sait très bien qu'on ne grandit que dans le temps éprouvé, donc cette contradiction, en quelque sorte, entre ces deux supplications, c'est que C'est une des formes de l'opposition qui existe entre celui qui va servir Hachem dans la Yiratret. Comme on vient de dire, on a dit que dans la Yiratret, si on a la Yiratret, alors d'une certaine manière, on voudrait la disparition du Chet, et donc il n'y aurait plus de Bechira, donc il n'y a plus de problème. Et donc en fait, on ne sert plus à rien. Alors, je propose d'expliquer de la manière suivante. D'un côté, il y a une obligation, impérative en réalité, sur toute personne qui est arrivée au niveau où il est capable de hora'a, c'est-à-dire il est capable de décision à l'arique, et donc il est capable de diriger des gens par ses directions à l'arique. Il doit dire la halakha. Donc si quelqu'un, on voit, si quelqu'un est capable, alors il le doit. Mais d'un autre côté, la condition fondamentale pour être un maître décisionnaire, c'est de craindre la décision, de craindre ces décisions qui vont être prises. C'est-à-dire, il faut fuir, en fait, cette situation où on est obligé d'être moré, de dire le chemin, et puis d'un autre côté, on est obligé de ne pas se soustraire à l'obligation qui résulte du fait que tu peux, donc tu dois. Et on raconte toujours cette idée que il y avait quelqu'un qui, un dame gadol, un grand homme, tout à fait capable, qui a refusé d'accepter le poste de Dayan, de juge, en disant que non, je crains, j'ai peur de donner des décisions. Alors son maître lui a dit, mais si toi tu as peur, tu envoies les gens vers des gens qui n'ont pas peur. C'est impossible. Si les gens qui ont peur refusent, alors on va aller vers des gens qui n'ont pas peur. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas compris la gravité de la chose, l'importance de la chose. La vérité, c'est qu'au début, il y a la prière qui vient de « Antivieni, les denisayon ». Ne m'amène pas à une situation d'épreuve. Parce que c'est la confrontation avec la possibilité de la faute et on n'a pas tellement envie de se confronter à ça. Mais justement, on sait ce qu'on a dit, que la avoda dans la iratret, elle contient le désir que disparaisse la possibilité de la faute. Donc que disparaisse le chet lui-même. Mais que justement, après qu'on ait fui la situation où la faute existe, alors, il y a un éveil que non, j'ai besoin que la faute existe pour la repousser, pour montrer que je sers Hachem, Beirat Hachem. Donc, Bechini Hachem. Éprouve-moi Hachem. Donc il faut les deux choses, il faut vouloir fuir, puis après se dire, mais non, je peux pas, je suis obligé de me confronter au mal. c'est ça qu'on entend dans l'enseignement de Rabbi Akiva, qui, quand on peignait son corps avec les peignes de fer, les Romains le torturaient, il a dit, tous les jours de ma vie, j'ai attendu cette situation où je me trouverais devant ce pasouk, Rol Nafshecha, de toute ton âme, pour pouvoir accomplir ce verset. On voit que, au fond de lui-même, il y avait chez Rabbi Akiva ce désir de l'épreuve. Mais que, bien entendu, on fuit l'épreuve. Lorsqu'il priait Rabbi Akiva, « Altvienu l'Isayon », en même temps, son âme était pleine de l'espoir de se retrouver dans une situation où il allait pouvoir appliquer ce verset. Et quand la situation s'est présentée, que ses élèves l'ont dit, fais quelque chose, tu peux. Il avait le pouvoir d'échapper à cela. Il a dit, mais non, vous comprenez rien. J'ai attendu toute ma vie de me trouver dans cette situation-là. Donc, il faut revenir et essayer de réfléchir encore un peu plus, encore un peu mieux. Ça va nous donner une ouverture, une capacité d'entendre ce que disent les Chachamim. Lorsque, vous savez, ça fait l'objet d'une discussion pendant des années entre Beit Shammai et Beit Hillel. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion « Noach lo le'adam shelo nivra, mi shenivra ». Pour l'homme, il eût mieux valu qu'il ne soit pas créé, plutôt que d'être créé. Et tout le monde pose cette question. Qu'est-ce que les Chachamim sont en train de nous dire là? Qu'il vaudrait mieux que l'homme n'ait pas été créé? Et pourtant, quand Hachem a regardé au moment de la création de l'homme, après la création de l'homme, il a regardé l'ensemble de la création et dit qu'il n'est tov meod. Hachem a dit, c'est très bien. Et on sait bien que le mot me'od, tov, me'od, me'od, ça s'écrit même alef dalet. Même me'od, oui, c'est ça. Et vous voyez bien que ces trois lettres forment le mot Adam. Donc me'od, le trait en question, il est lié avec Adam. Donc, ce qui est super bien, c'est justement cette création de l'homme. Alors, comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce que les Chachamim, Beit Shammai et Beit Hillel, sont arrivés à la conclusion qui, Noach lo le'adam, il aurait mieux valu pour l'homme qu'il ne soit pas créé. Alors c'est justement ce dont nous parlons jusqu'à présent. Le chidouche, la nouveauté dans la création de l'homme, c'est que l'homme est le premier être créé à avoir la Bechira. Il est premier, le seul être créé. Et donc le me'od, il vient de la possibilité de la Bechira qui lui est donnée. D'ailleurs, quand l'homme a été créé, Torah dit « Vayitzer ». Vous savez bien, le « Vayitzer », il s'écrit avec deux « Yud », alors qu'un seul aurait largement suffi. Chazal disent que c'est une double Yitzira, une double création. Mina Elyonim ou Mina Tartonim. L'être humain, il a des côtés angéliques, c'est un être spirituel, mais aussi un être complètement matériel. Donc on voit ici que le rapport correct, positif, à la capacité de choisir, donc au libre arbitre, pour qu'on puisse le regarder positivement, il faut passer par le côté négatif. L'extraordinaire de la Bechira ne se dévoile que après qu'on ait pris conscience du désastre que représente la Bechira. Parce que justement, c'est justement ça le problème. Il n'y a pas de Tov Me'od. Ce Tov Me'od qui concerne particulièrement l'homme. Que après qu'on a pris conscience que Noach lo le'adam shelo nivra mishenivra. Quand est-ce qu'on comprend vraiment que c'est Tov Me'od? C'est seulement quand on a compris qu'en vérité il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas la possibilité de fauter. S'il n'est pas créé, il n'y a pas de possibilité de fauter. Mais c'est seulement quand on a compris ce que ça veut dire, qu'il n'y a pas de possibilité de fauter, qu'on comprend que la Bechira, c'est Tov Me'od. Par conséquent, les autres créatures, toutes les autres créatures, sur lesquelles il n'est pas dit Tov Me'od. Tov, il le dit, mais pas Me'od. Au moment de la création. C'est parce que, en ce qui les concerne, on ne peut pas dire qu'il eût mieux valu qu'il ne soit jamais créé. Rosh Hashanah, c'est le jour, anniversaire, souvenir, le Yom Rishon, du premier jour. C'est-à-dire du premier jour de la création de l'homme. Pas du premier jour de la création du monde, mais de la création de l'homme. Et nous disons, dans l'introduction aux Zichronot, au verset qui parle du souvenir, on dit « Zehayom trilat ma'asecha » Ce jour-là, c'est le commencement de tes œuvres, des œuvres d'Hachem. Et ça, ça fait référence à au pasouk où Hachem dit « Naase Adam ». Et l'essence de ce qu'on appelle Kdushat Hayom de Rosh Hashanah. C'est quoi la Kdusha, la sainteté spécifique de Rosh Hashanah? Comme il y a une sainteté spécifique du Shabbat, une sainteté spécifique de Pessah, de Shavuot, de Sukkot. Il y en a une de Rosh Hashanah. C'est quoi la Kdusha de Rosh Hashanah? Sa Kdusha, c'est la Kdusha qui vient de la création de l'homme. Bon, c'est le jour de la création de l'homme, donc. C'est une Kedusha qui est liée à la création de l'homme. Donc à la création de, du seul être capable de Bechira, capable de choisir, de libre arbitre. Et puisque c'est ça la Kedusha de l'homme, la Kedusha du jour, pardon. Alors, il y a en quelque sorte deux flammes qui sont allumées à ce moment-là, qui ont à voir avec la création de l'homme. D'abord, il y a une flamme qui correspond à Noach, Lo le Adam, Shelo Nivra, Mishe Nivra. Bon, ça, ça correspond au fait que donc, il aurait mieux valu ne pas créer. Et ça, ça s'exprime en termes de sonnerie de chauffard par le Gnuche Ganach, Vilulei Yerlim. C'est-à-dire ce sanglot. Le côté sanglot qu'il y a dans, dans le chauffard. Mais du sein même de cette flamme-là, on peut en allumer une autre qui va brûler aussi en même temps. Celle du Tov Meod, celle qui est la parole d'Hachem qui dit Tov Meod. La première, elle correspond à la parole des Chachamim, qui disent « il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé ». Maintenant, de ce que les Chachamim disent là, le cœur, ce qui monte là, c'est la parole d'Hachem. Tov Meod. Et ces deux flammes ensemble, mais l'une étant au-dessus de l'autre, c'est ce que dit Nehemia. Antifku, ne pleurez pas. Qui, chedvat Hashem hi ma'uzchem. La gloire, la joie d'Hashem, c'est ça votre faute. Votre, j'y arrive pas. Votre force. Et on a remarqué d'entrée de jeu que Nehemia n'a pas dit quelque chose du genre il n'y a pas lieu de pleurer. Au contraire. Avant le avec cette ces pleurs, on pourrait dire il n'y a pas suffisamment de larmes pour exprimer le désastre de la création de l'homme. Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. C'est désastreux qu'il soit créé. Mais après ces pleurs, que Nehemia n'a pas, il n'a pas dit qu'ils n'ont pas lieu d'être. Il leur a dit, ne pleurez pas. Il y aurait peut-être des raisons de pleurer, mais ne pleurez pas. Parce qu'en vérité, il n'y a pas lieu de pleurer. Ne pleurez pas, ne vous attristez pas, parce que votre force, votre port d'attache, votre rocher, votre c'est la joie d'Hachem. Vayar Elokim et kol asher asa v'hineh tov me'od. Hachem a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'est Tov Meod. Ok, donc, Filou Milfanav Kol Haaretz, que toute la terre soit tremble. Mais dans le monde, a priori, ce sont deux choses absolument contradictoires. Trembler, mais d'un autre côté, on veut aussi Baltimore. Il faut trembler, mais il faut pas que ça soit, pas que ça bouge. Mais c'est ce qui se passe dans les mondes, dans l'intériorité des mondes, le jour du Yom Tov de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que il faut embellir ce moment-là avec à la fois le tremblement, mais aussi c'est aussi une joie, en fait. Et maintenant, on peut revenir à ce qu'était notre question initiale. Vous vous souvenez, on avait demandé Ashrei Ha'am Yod'ei Troua. Chazal ont expliqué Ashrei Ha'am, dont les membres, dont les constituants de ce peuple, Yod'im nefatot et bor'am, les trois. Ils savent, le fatot, séduire leur créateur avec la trois. D'après ce qu'on vient de voir, ce qu'on veut dire ici, c'est quoi cette notion de séduction? On a l'impression que c'est pas vraiment le mot adéquat. On n'est pas en train de, ce qu'on dit, ça correspond pas vraiment à l'état dans lequel on est, dans notre kavana. Mais ça, c'est spécifique au shofar. Toutes les mitzvot, elles agissent directement, en quelque sorte. À partir de leur contenu. Mais le shofar, qui doit en fait produire le Tov Meod, grâce au sanglot, si on peut parler comme ça. Puisque ce peuple savent séduire le Créateur par la Troie, alors il marche à ta lumière. C'est-à-dire, bien que tout ce qui est donné dans le Harat Panim, avec l'illumination du visage, tout ça, ça a été donné toujours avec cette illumination du visage. Comme disons dans la Tfila, qui beopanecha natatalanu. Parce qu'avec la lumière de ton visage, tu nous as donné, etc. Nicole Makom, néanmoins, Harat Panim, normalement, l'éclat, la lumière du visage, elle a à voir avec la création de l'homme. Puisqu'on dit justement l'éclat du visage, c'est Vayar Elokim et Kolasher Asa Venetov Meod. Donc Harat Panim, ça inclut cette création. Et donc, ça vient justement parce que on sait ce que c'est que la Troua. C'est uniquement parce que par la séduction des sanglots qu'on arrive réellement à Tov Meod. On a compris que pour arriver au Tov Meod, il faut les sanglots. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, comme on l'a dit plusieurs fois, on est en train de couronner Hachem comme roi. Et donc le shofar, la sonnerie du shofar, ce sont des sonneries de joie. Mais il faut comprendre que ces sonneries de joie, en fait, elles prennent une forme curieuse. Elles prennent une forme de sanglots. C'est-à-dire, il faut commencer par un sanglot pour que le Tov Meod arrive. C'est-à-dire, il faut prendre conscience de finalement ce que c'est qu'un être humain. C'est quelqu'un qui est capable de fauter. Et donc, du fait qu'il est capable de fauter, de ne pas être à la hauteur, il vaudrait mieux qu'on ne le crée pas. Mais si on ne le crée pas, on ne peut pas. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de couronnement du roi. Un roi sans sujet, c'est pas un roi. Et donc, le couronnement du roi n'est possible que si on comprend, effectivement, qu'il était nécessaire d'en passer par quelque chose qui est attristant, qu'on est obligé d'en passer par la création de l'homme, et l'homme, pour pouvoir choisir de couronner Hachem, il faut qu'il ait le choix, en quelque sorte. Il n'aura le choix que s'il pourrait ne pas le faire. Mais l'idée même qu'il pourrait ne pas le faire, et qu'éventuellement, dans certaines situations, il ne le fait pas, c'est atterrant, ça veut dire, c'est les sanglots. Mais la question, c'est quel est le but ultime, en fait. Le but ultime, évidemment, c'est de reconnaître qu'Hachem est le roi. Donc c'est bien le couronnement qui est le but ultime. Donc le Tov Meod qui a été dit par Hachem, d'accord, il n'est compréhensible, et c'est ça que les Chachamim ont travaillé. Ça n'est compréhensible que parce que ça passe par les sanglots. Parce que cet homme dont on a besoin de la Bechira pour qu'il y ait vraiment couronnement d'Hachem, ben il faut qu'il ait une Bechira et par conséquent, il faut qu'il puisse fauter. Mais s'il faute, c'est un désastre. Et donc, la capacité, la possibilité d'un désastre est déjà un désastre, mais c'est ce désastre-là qui est la condition sine qua non pour qu'il y ait couronnement d'Hachem. Il n'y a pas de Tov Meod si c'est pas ça. Si on n'a pas l'homme, le Meod c'est Adam. Si on n'a pas l'homme, c'est pas possible. Il n'y a pas de couronnement d'Hachem. Voilà ce que on peut prendre de on va en rester là. Je vous souhaite Ktiva Hatim.